Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être consacré au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Mélanie, quel sera notre premier sujet du jour?
Eh bien Julia Vignali, on va commencer comme tous les jours par poser là une question à la fois professionnelle et intime ce matin. Comment éviter le burn-out? C'est un sujet très sérieux aujourd'hui. On va parler de ce mal qui est désormais un peu mieux reconnu, même s'il y a encore des progrès à faire. Et donc ce matin, on va bien définir les choses. Déjà, comment reconnaître les signes d'un burn-out par rapport à un gros coup de fatigue, par exemple? Comment réagir si c'est le cas? On vous expliquera tout avec notre invitée, Cathy Assenheim, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie.
Et puis Mélanie, à 11h35, ce sera notre dossier santé du jour dans lequel on va aller s'évader aujourd'hui du côté de la médecine traditionnelle chinoise. Quelles en sont les bases? Dans quelle indication peut-elle être d'une aide précieuse? Nous ferons le point avec Dominique Cassaïs, masseur kinésithérapeute spécialisée en médecine chinoise.
Ensuite, Julia, à midi, dans notre séquence tendance, on mettra tout d'abord un petit fruit à l'honneur. Il ne pousse pas en France, mais on le trouve sur nos étals encore tout le mois de janvier, le litchi. C'est le chef pâtissier Jeffrey Cagne qui nous dira tout et surtout comment le sublimer dans de délicieux desserts. Ensuite, dans notre bande de chroniqueurs, il y aura ce midi Sophie Braffman, notre experte mode. Elle va nous expliquer que côté fringues, ce qui est très 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 branché en ce moment, c'est le sur-mesure.
Et enfin, nous allons terminer ce tour de table avec la chronique déco de Sophie Mouton-Brice. Si je vous dis Veri-Péri, je suis certaine que vous ouvrez des yeux ronds comme moi. Et bien sachez que c'est LA nouvelle couleur de l'année 2022 à mettre absolument dans votre déco d'intérieur.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 et dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Aujourd'hui, on va se poser cette question, comment éviter le burn-out?
Et oui Mélanie, c'est un sujet très sensible. Alors certes, on en parle de plus en plus, les arrêts maladie pour ce motif sont nombreux, mais c'est pas toujours évident de savoir quand on en souffre, d'en parler autour de soi et même de se faire prendre en charge avant que la situation ne soit trop grave. Alors on va vous donner des tas de conseils pour ne pas passer à côté et même peut-être pour éviter d'en arriver là. On vous détaille tout ça dans quelques minutes avec notre invité. Mais pour amorcer ce sujet, on va en parler avec un brin d'humour, j'en suis sûre, avec vous Clément Lanoux, bonjour.
Bonjour.
Alors vous qui interrogez pour nous tous les jours les Français sur cette question quotidienne, alors ça n'a pas dû être simple aujourd'hui. Hein.
C'est pas simple, mais quelle joie de démarrer cette année, en fait, mi-janvier, avec un sujet comme le burn-out,
bah oui, vraiment, vraiment ça donne envie. On a une bonne idée.
La veille de l'anniversaire de Mélanie en plus, bravo, c'est
merci,
sympa.
Merci.
Alors qu'est-ce que le burn-out? Encore un anglicisme. Qu'est-ce que ça veut dire en fait en français le burn-out?
Brûler, burn c'est brûler. Out, c'est à l'extérieur, donc brûler peut-être de l'extérieur. Mais pourtant, un burn-out, c'est plus on brûle de l'intérieur, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus psychologique. Donc, je suis pas sûre de la définition.
Nous non plus. En tout cas, effectivement, on brûle de l'intérieur, de l'extérieur, on n'y comprend plus rien. C'est quoi un burn-out? J'ai posé la question à des ados.
Quand on est KO, genre, je sais pas, on est fatigué.
En dépression, non. Accumulation et que ça explose.
On n'en peut plus, on a envie de tout lâcher.
Ton cerveau, il est out, genre, il en peut plus.
Le
cerveau
out, le burn-out, on a l'impression que c'est une maladie du 21e siècle, alors qu'apparemment, selon cette dame, ça a vraiment toujours existé, mais ça remonte à très 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 longtemps l'origine du burn-out.
Vous savez, on n'a rien inventé, hein. Je pense que, enfin je sais pas, moi je veux pas jouer les vieux cons, mais tout a existé, on a toujours tout expérimenté, l'homme a toujours voulu aller plus loin, plus vite, plus ceci, plus cela, même dans l'art romantique, hein. La chute de l'Empire romain. C'est que c'était ça, hein. Ils ont tout voulu, c'était luxure, machin et tout. Je crois que c'était un gros burn-out collectif.
Et voilà un scoop.
Mais l'histoire, c'est chez Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Je suis désolé, on vient d'apprendre quelque chose de dingue. La chute de l'Empire romain était un burn-out. Et alors l'Empire ottoman, madame?
Ottoman, je connais moins, mais je pense qu'ils sont passés aussi par là. C'est pour ça qu'ils ont resserré les boulons après au niveau des valeurs morales. Donc je pense que c'est un peu ça.
Effectivement, Stéphane Bern, vous avez une invitée qui vous attend pour en savoir plus, le gros burn-out de l'histoire. Et puis je suis resté justement avec les jeunes parce que ça parle souvent à des personnes qui sont dans des entreprises depuis longtemps. On parle de charge mentale, mais les lycéens, est-ce qu'ils sont concernés? Est-ce qu'ils ont eux aussi des burn-out?
Ouais, tout le temps. Il y a une semaine, même pas, c'est vrai. Non, dans notre école, on est vraiment, mentalement, c'est compliqué. Hein. Trop la pression, le bac, les enjeux pour l'année prochaine, tout ça, c'est hyper compliqué, vraiment. C'est limite
le stress en fait pour notre futur et tout, et donc bah au bout d'un moment voilà.
Trop comme dans toutes les écoles, hein. Je pense que c'est pas que la leur. Hein.
Partout, partout. Alors justement, comment on va en parler, comment éviter ce burn-out ? Voici un premier élément de réponse par les adultes.
Se féliciter pour ce qu'on fait, même si c'est peu. Bien calculer le temps qui est nécessaire pour chaque tâche. Et quand je dis ne pas planifier trop, c'est-à-dire avoir du temps pour les imprévus qui peuvent arriver chaque jour. Et après, bien évidemment, faire le sport, bouger et manger sain.
Vous avez seulement des vrais spécialistes dans la rue. Hein,
elle
vous en croisez,
elle a
hein.
tout compris, cette dame.
J'avais l'impression de vous interviewer, Julia. C'était un peu le même agenda, le même mode de vue.
Je suis tellement d'accord avec elle, mais ce n'est pas facile à tenir. Hein.
Et puis on termine avec les ados. Même question pour les ados, justement. Comment éviter, quand on est ado, le burn-out ?
Trouver des moments pour soi, se détendre et après repartir et se donner à fond. Hein.
Toujours relativiser, parce qu'il y a pire dans la vie. Tant qu'on a la santé, c'est l'essentiel. Sortir avec les copines, voir ses copains.
Faire des pauses, des fois, il faut arrêter un peu. Et après reprendre. Mais il faut partir pour revenir mieux.
Voilà, partir, sortir et voir les copines,
général,
c'est pas mal.
On a la bonne recette à l'ado. Hein, à
je pense qu'elles n'avaient pas l'air très déprimées.
Ouais. Merci beaucoup Clément Lanoux pour cette introduction dans la vraie vie sur notre thème de ce matin, le burn-out. Vous pouvez encore rester avec nous. On va accueillir ensemble notre invitée, Cathy Assenheim. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie. Vous êtes également l'autrice du livre « Je suis épuisée » aux éditions de Book Supérieur. Alors, depuis combien de temps on parle du burn-out ? Je ne sais pas si ça remonte à l'Empire ottoman ou autre, mais quelles sont vos références à vous en tout cas ?
C'est pas tout à fait faux, en fait, cette charmante dame. En fait, ça existe depuis toujours maintenant. Avant, on associait plus ça au côté dépressif. On parlait d'ailleurs de dépression nerveuse, avec un espèce de tabou un peu psychologique. Mm-hmm. Ça fait une dizaine d'années qu'on commence à en parler en termes de pathologie physiologique. Et c'est vrai que dans les commentaires, ça sort beaucoup et c'est très important. On parle beaucoup de la tête, que ce soit dans la volonté de faire plein de choses pour soi, pour éviter le burn-out, ou de dépression qui est aussi en fait associée à la psychologie, à la pathologie. Or, en fait, l'épuisement, moi j'utilise le terme épuisement pour qu'on se demandait quel terme utiliser, c'est avant tout en fait le corps qui lâche, c'est pas la tête. Tous les stades antérieurs où on a encore la volonté de pouvoir un petit peu fonctionner, c'est plus les premiers stades, le surmenage, la fatigue.
Il y a des négationnistes du burn-out, des gens qui vous expliqueront que dans les années 50, eh ben, c'était marche ou crève. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben alors, c'est pas tout à fait faux. C'est qu'avant, on se posait pas trop la question. Là, il y a eu aussi une évolution de la société qui fait qu'on accorde beaucoup plus de place au bien-être.
Vous imaginez nos grands-mères ? Il n'y avait pas de machine à laver, elles élevaient 5 enfants, il y avait le mari qui posait problème. Comment elles faisaient, les pauvres dames ?
Ben, elles se posaient pas la question, justement, ouais. Et elles résistaient jusqu'au moment où elles s'écroulaient. Et là, on donnait d'autres étiquettes de maladies diverses et variées. Donc là, maintenant...
Genre la folie, elle est venue
folle. Oui, la folie, c'était vraiment associé en gros à la dépression. Bon, c'est vrai que c'est encore une grande idée reçue qui reste. Est-ce que c'est psychiatrique, quoi. Mmh.
Cathy, est-ce qu'on sait si ça représente beaucoup, beaucoup d'arrêts maladie aujourd'hui, le burn-out ?
Alors, c'est une question difficile parce qu'il faut voir avant le Covid et après le Covid. Au niveau professionnel, on estimait dans les chiffres européens qu'il y a environ 1 personne sur 4 qui souffre de stress et pas juste dans le côté psychologique, je suis un peu stressée, vraiment avec une atteinte physique. Dans les premiers stades de burn-out maintenant, avec le Covid, ça a évolué aussi. Je ne peux pas vous donner de chiffres tout à fait platement.
Mais quand vous dites que ça a évolué évidemment de manière négative.
Hein. Oui, tout à fait. En fait, il faut repartir du début. L'épuisement, je vais garder ce terme-là, que ce soit la fatigue dans les premiers stades, le surmenage ou vraiment le burn-out avéré, c'est une maladie de l'adaptation. Donc c'est physiologique, c'est tout notre système physiologique d'adaptation qui commence de plus en plus à être mis à mal. Donc ça existe depuis toujours. C'est vrai qu'il y a association au milieu professionnel, moi je me bats pour justement ouvrir, il y a une multitude de causes, mais c'est vrai que le professionnel, quand il y a beaucoup de soucis, on peut être mis à mal. Le Covid a encore mis une couche sur toutes les adaptations qu'on doit faire au quotidien, même si on est super positif. Voilà.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Tout compris, hein. Henri Salvador. Le travail, c'est la santé, mais il ne faut pas en faire trop non plus. Alors, de retour dans Bienfait pour vous, votre émission Bien-être. Ici, on ne cherche qu'à rendre notre vie quotidienne plus facile dans tous ses aspects, y compris dans votre vie professionnelle. C'est notre sujet ce matin avec cette question: comment éviter le burn-out, comment éviter l'épuisement. On décortique tout cela avec vous, Cathy Hassenheim, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie. Vous êtes également l'autrice du livre « Je suis épuisée » aux éditions de Book Supérieur. Alors, reprenons du début. C'est quoi la différence entre une fatigue passagère, même une grosse fatigue, et l'épuisement qui annonce le burn-out?
Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre déjà ce que c'est que l'adaptation. Donc, c'est des modifications nerveuses et hormonales qu'on a tous, en fait, au quotidien pour s'adapter, que ce soit j'ai faim, j'ai soif, ou il y a un problème professionnel ou une crise sanitaire. Alors, au plus, en fait, on va devoir s'adapter, au plus, il va y avoir de modifications nerveuses et puis de dérèglements. Alors, les premiers stades, c'est juste une modification nerveuse, c'est ce qu'on appelle le surmenage. Pour tenir debout quand on commence un peu à ramer, on va dire, le système nerveux se surbooste pour donner une espèce de béquille. Ça, c'est les premières étapes. Ça va donner toute une série de symptômes en fait très précis de surboostage nerveux, ouais. Du genre excitabilité, un peu mode robot, là où on est tout le temps dans l'action, il faut, je dois. On va commencer à avoir difficile à se reposer parce que le système nerveux, la récupération, lui, lâche. Donc, on va commencer à avoir des endormissements tardifs, des réveils vers 4 heures du mat.
Ça, c'est le premier stade.
C'est le premier stade. Au bout d'un moment, en fait, cette béquille nerveuse elle-même va commencer à lâcher. Donc là, on va être de plus en plus fatigué. On va commencer en fait à avoir vraiment des grosse insomnie, on va commencer à avoir des montées anxieuses, on va avoir le système immunitaire qui va commencer à lâcher, on a des modifications hormonales qui se mettent en place, des irritabilités, des agacements, des envies de sucre, des petits symptômes ORL à répétition.
C'est précis ce processus que vous décrivez. Hein,
En fait, quand on comprend que ce n'est pas psychologique, que c'est physiologique, et c'est vraiment tout ce que j'essaye de mettre en avant, il y a vraiment des étapes où on peut voir, est-ce qu'on en est juste à un surboostage, est-ce que la béquille commence déjà à lâcher.
Donc là, c'était le surmenage que vous nous avez...
Surmenage, surboostage nerveux. D'accord. Quand on commence à être dans l'épuisement, donc dans un stade plus avéré, cette béquille lâche.
On est obligé de passer par tous les stades que vous décrivez, forcément.
Oui,
d'accord.
Oui.
C'est des étapes.
Sur mon livre, Le bandeau du bas, donc c'est anxiété d'abord, où c'est juste une espèce d'excitation nerveuse avec toutes les manifestations. Puis on est dans le surmenage, avec ce côté mode robot, excité. On commence de moins en moins à se reposer. On appelle ça d'ailleurs la maladie des gens sans repos. On commence à être fatigué, mais on n'arrive pas à se poser dans un fauteuil. Puis en fait, au fur et à mesure du temps, cette béquille nerveuse va commencer à lâcher. Donc là, on commence vraiment être très fatigué. On a toutes des modifications hormonales qui vont faire apparaître toute une série de symptômes très précis, compulsions sucrées, problèmes de coups de pompe, irritabilité, agacement, etc. Et puis au plus on avance, au plus il va y avoir de dérèglements. Et là, en fait, à un moment donné, il n'y a plus rien qui fonctionne.
Et ça, c'est le burn-out.
C'est-à-dire
on reste allongé dans son lit, on ne peut plus se lever.
On n'a plus le choix, on n'a plus rien qui fonctionne, ni la récupération. Donc même quand on reste allongé, on ne récupère pas. Et on a toute une série de fonctions qui lâchent. Que ce soit le système immunitaire ou autre.
Alors Cathy, ceux qui en souffrent ou qui en ont souffert vont bondir, mais est-ce que c'est une question de volonté au final? Parce qu'il y a une idée reçue qu'on entend beaucoup, qui dit ils ont qu'à se mettre un coup de pied aux fesses et puis ça ira mieux. Vous en pensez quoi?
Absolument pas, justement, et c'est tout ce que j'essaie de montrer dans mon livre pour déculpabiliser tous ces gens qui sont en arrêt. Ça n'a rien à voir avec la volonté, c'est un dérèglement physiologique. Et c'est pour ça aussi que, même si je suis psy, quand on est en épuisement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui vont dire « reposez-vous ». Déjà nerveusement, c'est pas possible parce qu'on est excité, donc on sait pas se poser. Aller creuser le pourquoi du comment chez des psys, c'est pas la priorité non plus quand on est vraiment dans un corps qui commence à lâcher. Il faut en fait faire des examens biologiques, il y en a, des très simples, et voir l'état en fait de dérèglement.
Alors il y a des profils de personnes qui sont plus susceptibles de faire des burn-out ou pas?
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est aussi une idée reçue qui partait beaucoup. Ça n'a rien à voir avec une faiblesse psychologique, au contraire. C'est souvent les gens qui vont être tout le temps dans des suradaptations. Donc c'est dans le mode du travail, les managers, la hyper dynamique motivée. Ça peut être aussi en fait des gens qui sont tout le temps à vouloir aider les autres.
Les perfectionnistes un peu?
Des perfectionnistes, des gens hyper empathiques.
Plutôt des hommes ou des femmes?
Autant. C'est vrai qu'on pose souvent la question. Pour moi, il n'y a pas de différence. Et alors, c'est très important aussi, et ça j'insiste, les enfants aussi, et de plus en plus. Donc,
enfants ou les ados?
Non, les enfants aussi. Mon plus jeune patient en burn-out, il a 8 ans. Donc,
c'est ceux dont les parents les inscrivent au chinois, au violon, à l'école, et machin, ils doivent être forts partout.
Ou simplement, vous savez, là, avec le Covid, les enfants aussi doivent tout le temps s'adapter. Ils n'ont pas le recul nécessaire. Alors, on a l'impression que ça les touche moins. Mais il faut vraiment comprendre que ce n'est pas dans la tête, c'est physiologique. Donc, les enfants aussi peuvent être déréglés physiologiquement.
Donc, hommes, femmes, enfants, tout le monde peut être touché. Mais est-ce qu'il y a des domaines professionnels où il y a davantage de burn-out que d'autres? Est-ce que ça a été étudié, peut-être?
Où on trouvera les mêmes types de de personnalités. Donc les managers type hyper investis qui se donnent à fond, les métiers d'aide où il y a hyper de l'empathie, on doit tout le temps s'adapter. Mais ce n'est pas lié uniquement au domaine professionnel. On peut avoir un burn-out après une belle histoire d'amour parce qu'on s'est adapté à fond à tous les changements que ça implique.
On peut avoir un burn-out parental, non ?
Aussi, exactement. En fait, toutes les causes sont en général d'ailleurs des multicauses. Donc on n'a pas un épuisement parce que pendant 3 ans, on a eu des galères au travail. Ça se met en place sur la durée. Donc c'est des dizaines d'années parfois pour que ça se mette en place. Et c'est une succession d'adaptations.
Mais quand vous dites que c'est une maladie d'adaptation, ça veut dire que les patients, enfin ceux qui viennent vous voir, ils n'ont pas su s'adapter ou ils se sont trop adaptés ?
Alors, ils se sont en général... Enfin, ça peut être les deux. Oui. C'est-à-dire que de nouveau, il faut voir l'adaptation au niveau physiologique. Mmh. On a des mécanismes nerveux et hormonaux qui nous permettent de nous adapter. Après, c'est une succession. Il y a des gens qui vont s'adapter sur une très courte période à des trucs très difficiles et qui vont craquer. Il y en a d'autres qui vont tenir 10 ans parce qu'ils sont perfectionnistes, parce qu'ils sont hyper emballés, enthousiastes et qui, du coup, à un moment donné, vont quand même craquer parce que ça leur prend de l'énergie. C'est une maladie des ressources, l'épuisement, en fait. Hein. Des ressources physiologiques.
Alors, vous êtes psychologue spécialisé en neuropsychologie. Comment ça se passe dans notre cerveau quand on souffre de burn-out ? Est-ce que c'est la même chose que ce qui se passe finalement quand il y a une dépression ?
Alors, on n'avait pas encore posé cette question-là. Donc, ma spécialité, c'est le lien entre le cerveau et les comportements. Ça, c'est la psychoclassique, mais aussi le cerveau et la biologie. Donc oui, qu'on ait une dépression ou qu'on ait en fait un épuisement, il y a des modifications physiologiques dans le corps qui vont en fait être engendrées. Maintenant, la cause est complètement différente. Et c'est vrai que souvent, on compare en fait l'épuisement et une dépression. Ça n'a strictement rien à voir. L'épuisement, il y a des symptômes dépressifs, mais qui sont uniquement hormonaux. C'est-à-dire que dans tous les règlements hormonaux, il va y avoir une hormone, la sérotonine pour la cité, qui va être plus faible, qui est celle qu'on retrouve dans les antidépresseurs en fait, comme booster. Et donc ça va donner des symptômes, mais dès qu'on régule les règlements, ça revient à la norme.
Alors que l'épuisement, voilà.
Alors que quand on est vraiment dans une dépression, c'est vraiment des modifications en fait hormonales, enfin ou psychiatriques, qui sont totalement différentes. Donc c'est pas la même chose.
Alors vous parlez notamment d'oppression respiratoire, c'est ça ? On est essoufflé quand on est au bord du burn-out, on a tout le temps la sensation d'avoir un poids, c'est ça, sur la poitrine ?
Oui, en fait c'est tout à fait normal parce que simplement le système nerveux est lié en fait à la respiration et donc comme le système nerveux est surboosté. On a tout le temps en fait une expiration trop courte. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir ce sentiment d'avoir un poids, une oppression, de ne pas respirer. On peut l'avoir quand on est stressé aussi, tout à fait normalement.
Sauf que là, c'est permanent, ça doit être atroce. Voilà.
Dans votre livre, vous parlez aussi de troubles visuels ou d'acouphènes. C'est quoi ? On peut avoir ça quand on a un burn-out ?
Oui. En fait, là, c'est de nouveau les modifications hormonales. Je ne rentre pas dans les détails, mais donc, il y a des modifications au niveau du cortisol, qui est vraiment d'ailleurs ce qu'on va aller regarder pour identifier l'épuisement.
C'est l'hormone du stress, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Qui donc est trop haute quand on est en stress, en épuisement elle devient trop basse et ça peut influencer en fait sur la vision de près et donc donner en fait des troubles visuels entre autres, mais toute une série aussi, donc ça influence aussi le système immunitaire, donc c'est vrai qu'on commence à avoir aussi tous des problèmes en fait immunitaires.
Qui on consulte quand on a dans toutes les choses dont vous venez de parler, peut-être pas forcément tout en même temps mais dans tous les symptômes qu'on vient de décrypter, on va voir un généraliste, un psy direct.
Alors médecin généraliste avec une nuance, il faut aller voir des médecins qui sont formés en fait à l'analyse des neurotransmetteurs, on appelle ça. Donc, c'est des petits tests salivaires et urinaires qui permettent de voir la fonction surrénalienne et toutes les hormones qui sont liées. Et ça, c'est en fait les indicateurs en fait de l'épuisement. C'est la première chose à voir. Maintenant, tous les médecins ne sont pas formés, même si ça change. Et en France, c'est particulièrement difficile, mais on en trouve. Et puis, voilà, une fois qu'on a fait en fait un bilan physiologique, le médecin peut mettre en place alors les traitements pour réguler.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin. Nous sommes en studio avec Cathy Assenheim, psychologue clinicienne, autrice du livre « Je suis épuisée » aux éditions de Book Supérieur. Alors, nous faisons le point sur le burn-out. On tente de l'éviter, de le soigner. Alors justement, vous nous avez expliqué avant quels sont les signes, les symptômes qui ne trompent pas et face auxquels il est préférable de consulter. Vous avez dit un généraliste dans un premier temps. Et s'il est un petit peu formé quand même au burn-out et à toutes ses spécificités, c'est mieux. Comment ça va se passer dans l'immédiat ? Il y a quoi ? Direct, un arrêt de maladie, un arrêt de travail ? Ça, c'est une étape obligatoire selon vous ?
Tout dépend l'état de dérèglement. Il y a des gens qui sont en surmenage, qui peuvent continuer à travailler avec des aménagements d'horaire, même en masquant pour leur travail, c'est-à-dire qu'il ne faut pas spécialement le dire. Il y a des gens qui sont déjà tellement loin qu'ils ont besoin en fait, d'être mis en arrêt. Donc ça dépend vraiment d'un cas à l'autre.
Mais est-ce que juste prendre une petite semaine de vacances ou deux, ça peut suffire à arrêter le burn-out ?
Non, parce qu'il faut comprendre en fait, que quand on est en épuisement, en tout cas même dans les stades, c'est les ressources de fond, donc nerveuses et hormonales qui sont attaquées. Quand vous allez prendre des vacances, vacances, vous allez avoir des l'énergie un peu superficielle ou pendant quelques jours, vous allez vous sentir mieux, ça va un peu masquer. Mais dès qu'en fait, cette énergie superficielle va disparaître, vous allez être confronté au fait que vous n'avez pas assez de ressources de fond et ça va revenir.
Est-ce que comme dans d'autres pathologies, finalement, on dit souvent mieux vaut prévenir que guérir, est-ce que si vraiment on se rend compte qu'on est déjà à la première étape, donc l'anxiété, vous disiez anxiété, surmenage, burn-out, les différentes phases du processus, est-ce que consulter le mieux, le plus tôt, c'est le mieux?
Oui, alors après, c'est aussi le but de mon livre, c'est que j'ai donné les premières étapes, en fait, avec aussi des autodiagnostics pour pouvoir se prendre en charge et déjà voir si ça aide. Vous parliez de durée, c'est très important, ça varie de nouveau d'une personne à l'autre. Quand les surrénales, qui est vraiment l'organe type, sont touchées dans les stades vraiment légers, 4 à 6 semaines, en faisant toute une série de choses précises, peut faire qu'on arrive à sortir la tête de l'eau. Si maintenant, c'est pas suffisant, il faut aller consulter et voir vraiment de manière plus précise l'état des dérèglements.
Et ce travail psychologique, il faut forcément le faire ou vous pensez qu'on peut s'en passer?
Alors pour moi, le travail psychologique, il est après. C'est ce que je dis toujours, quand on a une grippe, alors c'est pas pour le moment, mais on va d'abord se soigner avant de creuser sur pourquoi est-ce qu'on l'a attrapé ou comment on n'attrapera plus. Donc l'épuisement, c'est la même chose. Le psychologique est important après, pour travailler ses limites, pour travailler son seuil de tolérance, mais pas au moment où on est complètement
sous l'eau, quoi.
Haute, voilà.
Alors justement, dans la première étape, on va dire, de la prise en charge qu'on peut faire déjà soi-même, on va dire, pour traiter un burn-out, vous dites que réguler son sommeil, c'est très important, mais comment on s'y prend? Vous parlez des déclencheurs de sommeil, c'est quoi ça?
Alors, là, c'est de nouveau par rapport, dans les premiers stages, je vous ai dit, ce qui est le plus perturbé, c'est le système nerveux. Donc, il faut réguler le système nerveux. Et le système nerveux influence aussi sur le rythme veille-sommeil. Donc, indirectement, on va réguler, en fait, le sommeil. Pour moi, alors, avant le sommeil, il y a la cohérence cardiaque, par exemple, qui va réguler le système nerveux de manière naturelle. Par rapport, en fait, au sommeil, il faut savoir que ce cortisol dont on parlait influence, en fait, la mise en état de la mélatonine, qui est le sommeil profond. Donc, il y a des excitants de cortisol. Si ces excitants sont très nombreux juste avant de dormir, votre mélatonine ne va pas se mettre en place adéquatement. Et donc, c'est vrai qu'il y a des déclencheurs de cortisol qu'il faut éviter. C'est le chocolat devant la télé là, à 21h. C'est un booster de cortisol. Les bains chauds juste avant de dormir, ça monte le cortisol.
Tout ce que je fais, c'est pas bon, là.
Et vous n'êtes peut-être pas en épuisement, mais je veux dire, c'est vrai que quand on commence comme ça à avoir des problèmes de sommeil, à avoir des coups de pompe en journée, à avoir ce côté mode robot, c'est des choses qu'il faut éviter.
Le petit chocolat le matin, plutôt, avant d'aller travailler.
Le matin, c'est ça. On a besoin d'énergie.
Et puis un bain froid avant de dormir, Mélanie.
Voilà, c'est agréable.
Non, voilà, c'est vrai, vous le préconisez.
Oui, comme les enfants, en fait, on fait le bain après avoir mangé, mais pas en tout cas 1h30 avant de dormir. Il y a en fait des boosters de cortisol qu'il faut diminuer.
D'accord.
Moi, je rappelle votre livre dans lequel justement il y a un programme d'action global pour déjà démarrer tout seul. Et puis bien sûr, ça n'empêche pas de consulter après si ces choses-là ne marchent pas ou si on a déjà une étape très élevée. Votre livre, c'est Je suis épuisée chez The Book Edition. Alors il y a encore beaucoup de choses à dire, mais en moyenne, on sait qu'il n'y a pas de règles, de grandes règles, mais combien de temps on peut espérer se guérir d'un burn-out, même si chaque cas est différent, évidemment.
Alors, dans les cas modérés, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle le stress chronique ou le surmenage, c'est toujours cet état des surrénales qu'il faut soigner. Donc, c'est 4 à 6 semaines, en fait, dans une approche globale, comme vous le soulignez, c'est important. Quand les surrénales sont déjà fort attaquées, fort fatiguées, qu'il y a beaucoup de dérèglements nerveux hormonaux, il faut, en fait, 3 mois. 6 mois, c'est 3 mois pour que les surrénales puissent vraiment, si elles sont bien prises en charge, se réparer. Donc, voilà, c'est 3 à 6
mois. Comment vous les réparez, ces surrénales? Alors, on va peut-être pas tout détailler là, mais.
Non, mais c'est en fait.
Le sommeil.
Alors, oui, mais c'est surtout beaucoup plus physiologique. C'est que, par exemple, j'en parle beaucoup dans mon livre, mais il y a des plantes adaptogènes. On connaît beaucoup la rhodiola ou la shwagandha, qui est la grande mode. Ah, c'est en fait des régulateurs naturels de cortisol.
Et le griffonia, vous en pensez quoi?
Alors le griffonia, en fait, c'est du 5-HTP.
Lucas, son griffonia à peu près une fois par mois.
Moi, je suis sous griffonia depuis quelques années.
Tout dépend. Il y a le safran ou le griffonia, mais ça, on peut en parler longuement. Ça, ce sont des précurseurs de la sérotonine. Et donc, là aussi, en fait, c'est important de pouvoir le booster. Le griffonia, c'est vraiment quand on a des troubles du sommeil, quand on veut agir de manière plus large sur la sérotonine parce qu'on a beaucoup de compulsions sucrées ou parce qu'on a l'irritabilité vers 16 heures.
Rhodiola, ça plutôt?
Pardon?
Rhodiola, vous disiez?
Non, ça c'est alors du safran. Donc le safran, c'est un précurseur plus large. On peut l'associer avec le 5-HTP qui est plus spécifique pour les troubles du sommeil. Et voilà, après la rhodiola, ça c'est des plantes adaptogènes. C'est pour agir plus pour réparer les surrénales sur le fond.
Donc on prend des plantes, on mange mieux. J'imagine, on fait un peu d'activité physique, ça ne peut pas faire de mal.
Oui, mais pas d'endurance parce que comme on a un système nerveux qui est surboosté, un manque de récupération, si on va trop dans l'endurance, on va encore accentuer en fait ce manque de récupération. Donc il faut bouger dans les bons horaires. J'explique aussi qu'il y a des horaires nerveux où vous allez moins payer ce que vous allez faire et au contraire des
du
horaires...
Du type ?
Donc en fait le matin de 8 à 13, ce sont des horaires où on, justement les gens qui sont en arrêt par exemple, je leur suggère de faire des activités ou de regarder leur mail. Entre 16 et 20 heures, c'est la même chose. C'est pas moi qui l'ai inventé pour les parents, c'est une phase nerveuse où on a plus d'énergie. Par contre, entre 1 et 4, la phase bébé, en fait, où on fait faire les siestes, c'est une phase où si vous êtes en épuisement, vous êtes vraiment une loque. Donc, je veux dire.
Donc, juste après, bien fait pour vous, vous pouvez faire une petite sieste.
Exactement.
Hein, c'est le bon moment.
Mais les siestes, c'est très important aussi. Je les recommande aussi. Pas trop longues, 1 heure 30 grand maximum, sinon vous déréglez tout votre système nerveux. Mais quand on est en épuisement, il vaut mieux bouger le matin en fin d'après-midi, faire une bonne sieste entre l'heure du midi.
Très bien. Merci beaucoup, Cathy Assenheim, d'avoir
Avec
accepté
plaisir.
Notre invitation ce matin. Grâce à vous, on a compris que l'épuisement professionnel est une réalité physiologique et grâce
exact.
À vos clés, vos conseils, nous sommes mieux armés pour lutter efficacement contre lui.
Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À présent, Mélanie, on va changer totalement de sujet. On va faire un focus sur la médecine traditionnelle chinoise. Peut-être d'ailleurs qu'elle pourrait soulager certains mouliers au burn-out. On va déjà tenter de comprendre sur quel grand principe elle est basée. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Pour mener à bien cette découverte de cette médecine ancestrale, nous avons fait appel à vous, Dominique Cazaïs. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes masseur-kinésithérapeute spécialisé en médecine chinoise, notre thème ce matin. Alors d'abord, quelle est la grande différence, s'il y en a une, j'imagine qu'il y en a plusieurs, entre notre médecine finalement conventionnelle et la médecine traditionnelle chinoise ?
Alors, il y a une grande différence d'approche. En fait, bien sûr, les deux médecines visent à retrouver la bonne santé. Mais la médecine occidentale cherche plutôt à soigner une maladie, alors que la médecine chinoise, elle cherche plutôt à restaurer l'état de santé, le bon fonctionnement.
J'imagine qu'elle est très ancienne, non, cette médecine traditionnelle chinoise, comme son nom l'indique ?
Alors, le premier ouvrage de médecine chinoise date de moins 400 avant Jésus-Christ.
Ah oui, je pensais même pas aussi vieux quand même.
C'est déjà une compilation de textes plus anciens, donc on ne sait pas exactement l'origine, hein, mais on suppose que dès que les personnes plus même primitives ont toujours cherché à se soigner. Et le grand intérêt de cette médecine aussi, c'est que depuis 2500 au moins, on a tout l'historique et beaucoup de contributions de médecins, d'observations. Donc c'est une médecine qui s'est développée en continu et qui s'est toujours adaptée aux changements des sociétés.
Le fait de mieux comprendre le corps humain, ça permet de mieux prévenir les pathologies. D'ailleurs, vous dites qu'à l'époque, les Chinois, ils payaient leurs médecins pour ne pas tomber malade, justement.
Bon, alors effectivement, elle travaille beaucoup sur le terrain, sur notre environnement. Et il faut voir que dans les époques anciennes, la vie était relativement plus simple, même si elle n'était pas plus facile pour autant. Mais on vivait dans un village, on voyait peu de gens.
Il y avait peut-être moins de burn-out, on en parlait tout à l'heure qu'aujourd'hui.
Il y avait beaucoup moins d'informations tout le temps, de tas de sollicitations, de contraintes. Et du coup, le médecin, on le voyait à peu près 4 fois par an, au changement de saison, pour s'adapter à la nouvelle saison, au climat, à ce qui allait venir. Et donc, il régularisait nos énergies et il nous permettait de ne pas tomber malade.
Est-ce qu'on doit considérer la médecine chinoise comme une médecine douce ou c'est au contraire une véritable science ?
Alors, bon, le terme médecine douce, c'est un peu vague. On peut dire qu'elle est respectueuse du vivant, de notre physiologie, de ce qui est naturel. Donc, dans ce sens-là, peut-être, on peut la mettre dans les médecines douces. Sur le plan scientifique, alors bien sûr qu'en 2500 ans d'histoire, il y a énormément de recherches, d'évolutions. Donc, il y a un côté scientifique. Mais d'un autre côté, elle est difficile à évaluer, puisqu'on ne soigne pas une maladie, on soigne une personne avec son terrain. Et donc, chaque cas est unique, on peut dire. Et donc, c'est difficile de systématiser. Dans tel cas, on fait tel traitement, comme on ferait en médecine occidentale.
Alors, mais la médecine chinoise, c'est très global, en fait. Ça regroupe plusieurs grandes pratiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces pratiques-là ?
Disons qu'au départ, il y a une conception de la médecine chinoise qui vient du taoïsme, qui est la relation entre l'être humain et son environnement, entre toutes les parties du corps, toutes les fonctions physiologiques, qui sont animés par le concept du qi, l'énergie. Donc il y a une énergie qui symbolise le mouvement de la vie en nous, et cette énergie doit circuler, elle doit être en quantité suffisante. Et donc,
c'est quoi les pratiques que vous avez à disposition pour faire circuler cette énergie ?
Alors justement, après il se décline la phytothérapie, donc l'usage des plantes chinoises pour elle, travailler plutôt sur les tissus, sur les cellules, sur les organes. Mmh. Il y a l'acupuncture qu'on connaît mieux chez nous, qui vise à régulariser le mouvement de l'énergie, mmh. à l'harmoniser, à le rééquilibrer. On a la diététique. La diététique, ben, c'est l'art de bien manger, donc pour justement travailler son terrain, renforcer et être mieux équilibré. Le massage chinois, qui est un massage très élaboré, on y reviendra peut-être tout à l'heure.
Bien sûr.
Et enfin, le Qigong, la gymnastique de santé chinoise. Donc c'est ce que peut faire la personne par elle-même pour renforcer son énergie.
Donc ce sont les cinq piliers, hein, c'est bien ça ?
Voilà, il y a cinq piliers, cinq méthodes qui ont chacune leur avantage et leurs limites.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à midi et demi. C'est votre émission bien-être tous les matins. Alors à présent, on vous éclaire sur ce qu'est véritablement la médecine traditionnelle chinoise. On fait le point avec Dominique Cazaïs, masseur kinésithérapeute de formation spécialisée en médecine chinoise. On va détailler les cinq grandes pratiques de la médecine chinoise et voir ce que chacune permet de soigner. La première, on l'a dit avec vous tout à l'heure, c'est la phytothérapie. On utilise beaucoup les plantes en médecine chinoise.
En fait, c'est la part principale dans la médecine chinoise en Chine traditionnellement, et on l'utilise vraiment pour les problèmes plus profonds, mmh. Puisque les plantes, la substance des plantes va agir directement sur des organes, des cellules, des systèmes en profondeur. Donc là, c'est pas pour un petit bobo, une petite douleur. Et il faut savoir que c'est très complexe, en fait, la phytothérapie. C'est une ordonnance de plantes. Le médecin prend les pouls, il examine le patient, il fait le bilan. Il va donner une ordonnance avec peut-être une dizaine de plantes. Une qui va enlever l'humidité excessive, l'autre qui va remettre de l'énergie sur un organe, une troisième qui va faire circuler cette énergie, une quatrième peut-être qui va éliminer des substances qu'il faut éliminer.
J'allais vous dire dans des cas, parce que bon, pour l'instant on parle d'énergie, tout ça, pour nos auditeurs ça peut paraître un peu obscur peut-être, mais par exemple pour quelle, je ne sais pas, pathologie précise qu'on connaîtrait, vous pourriez utiliser la phytothérapie sur un patient ?
Alors, il faut savoir que c'est peu utilisé chez nous, puisque justement c'est complexe, ça demande
une formation
approfondie.
Il y a de la phytothérapie, mais pas chinoise en fait, hein, c'est ça ?
Il faut trouver les plantes, donc c'est vraiment la phytothérapie chinoise, c'est très spécifique. Mmh. Et on l'utilise en Chine beaucoup, par exemple, même sur les hépatites virales, sur des problèmes
très
sérieux.
Assez conséquent.
Mais on peut l'utiliser plus simplement pour régulariser le cycle hormonal chez les femmes.
Le transit
pour,
peut-être
La digestion, pour des tas de symptômes de fonctionnement sur lesquelles les plantes vont aider à régulariser.
Donc c'est différent de la phytothérapie, parce qu'en France, il y a des diplômes hein, de phytothérapie, il y a des pharmaciens qui sont formés à ça, ou même d'autres professionnels, et on sait qu'il y a des preuves hein, cliniques de l'efficacité de la phyto, mais ce n'est pas la même que la phytothérapie chinoise. Hein.
Bah, il y a des points communs, parce que les plantes, ce sont des fois les mêmes, mais la médecine chinoise, c'est vraiment cette notion d'ordonnance de plantes, d'un certain nombre de plantes, où chacune va avoir une action, et même des fois, une plante peut avoir un côté un peu toxique, et on va donner une plante pour enlever le côté toxique. Donc, il faut vraiment être
très
formé, bien averti. Ce n'est pas de l'automédication.
D'accord. Alors, vous pratiquez aussi l'acupuncture. Ça, c'est vraiment pour soulager les douleurs ou pas c'est ça le principe ou pas?
Alors,
de l'acupuncture
Bon, le principe des aiguilles, donc, c'est sur le trajet des méridiens. Les méridiens, c'est les canaux par où circule l'énergie. Et donc, il y a des points. Et ces points, ils vont agir sur l'énergie.
Quelqu'un qui a des problèmes d'addiction, moi je sais que l'acupuncture, j'ai plein d'amis qui ont fait ça pour arrêter le tabac notamment. Il est où le méridien du j'arrête le tabac ?
Alors justement, c'est pas très rarement en tout cas des points symptomatiques. C'est pas un point pour agir
D'accord.
sur une chose, c'est un point qui agit sur l'énergie. Et cette énergie, elle va par exemple mieux aider à éliminer des toxines, mieux aider à faire fonctionner l'estomac.
Ça veut dire que pour moi, par exemple, arrêter le tabac, ça ne serait pas le même point forcément que pour Julia, si elle veut arrêter le tabac quand même, mon énergie n'est pas la même, ou est-ce que si on fera la même chose ?
Il y a quelques points généraux des accoutumances, mais il y a quand même toujours une adaptation au terrain de chaque personne.
D'accord. Vous dites même qu'on peut soulager une personne ayant une fracture d'une jambe avec l'acupuncture.
Wow.
Oui, on avait même, à l'époque, fait des interventions avec anesthésie sous acupuncture. Ça s'est fait en Chine, ça s'est fait un tout petit peu ici. Bon, après, c'est quand même compliqué à mettre en œuvre. Mais en fait, le fait de mettre des aiguilles de chaque côté d'une lésion va faire circuler l'énergie tout autour de la lésion, parce que la lésion, elle fait un blocage de l'énergie, ce qui entraîne la douleur, l'inflammation. Et si on fait circuler l'énergie, on va améliorer le fonctionnement. et donc avoir une meilleure récupération.
Moi, je suis douillette, je pouvais quand même prendre quelques antalgiques. Hein, si je
oui, il y a quand même le temps de consolidation, ça n'empêche pas.
Il y a aussi les massages thérapeutiques, c'est un des troisièmes piliers de cette médecine traditionnelle chinoise, votre spécialité en tant que kiné, évidemment. Mais attention, ce ne sont pas des massages de détente, c'est plutôt quelque chose d'assez énergétique, hein, voire ça fait un peu mal, là, pour le coup.
Oui, le vrai massage thérapeutique de la médecine chinoise, c'est un massage qui, à la fois, travaille avec beaucoup de manœuvres tous les tissus du corps pour libérer, faire circuler, désengorger. Et d'un autre côté, il y a tout le travail aussi sur les points d'énergie, sur les méridiens. Donc il y a ce double aspect dans le massage chinois. Et en plus, il y a le côté de la perception, c'est-à-dire qu'on ressent tout son corps. Et donc le patient se relie vraiment dans son corps. Et donc, il y a un côté très apaisant aussi.
Et vous appuyez très fort quand même, ce massage-là ?
Certains points sont douloureux, oui.
Vous nous avez également parlé de diététique chinoise. Ça veut dire que l'on doit manger quoi, en fait, pour rester en bonne santé, selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise ?
Alors, justement, ce ne sont pas des recettes figées. Tout dépend de l'endroit où on vit, de la saison. Donc, la diététique, c'est bien sûr de manger équilibré, de manger un peu tout, d'avoir les différentes saveurs, les couleurs, la différente consistance des aliments. Mais aussi de l'adapter en fonction du climat, en fonction de la région où on vit.
Ici, vous arrivez en France, par exemple, enfin, j'imagine que vous vivez en France, je ne sais pas, mais vous arrivez à manger selon les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise en vivant ici ?
Alors, disons que je fais attention, par exemple, l'été, je vais prendre plutôt des légumes qui font une fonction rafraîchissante. Par exemple, le concombre. Mais, enfin, c'est des choses qu'on connaît bien chez nous aussi.
Qu'on ferait un peu d'instinct, je dirais,
voilà,
aussi.
L'hiver, on va prendre plutôt des...
légumes racines.
Des racines, des choses qui réchauffent, qui nourrissent l'énergie.
Et justement, hein, l'hiver, c'est le correspond aux reins, je crois, en médecine chinoise. Et vous avez une recette de tisane afin de prendre soin de ses reins. Est-ce que vous pouvez nous la donner rapidement ?
Oui, une petite tisane pour renforcer l'énergie des reins, hein, qui est particulièrement nécessaire pendant l'hiver, et réchauffer le corps. C'est une tisane de cannelle. La cannelle qu'on connaît très bien dans les pâtisseries, eh bien on prend deux ou trois bâtons de cannelle, on met dans de l'eau, on fait bouillir, on rajoute deux rondelles de gingembre et un ou deux clous de girofle.
Franchement, elle donne bien envie, cette tisane, moi, je
et
trouve.
Et donc, voilà, la cannelle nourrit l'énergie des reins, réchauffe. Le gingembre, il facilite tout le processus digestif et il réchauffe aussi. Et le clou de girofle a une fonction de purification.
Et vous aurez peut-être des reins en pleine forme grâce à ça.
On peut rajouter une petite cuillère de miel aussi.
Merci. Pour le côté sucré.
Et enfin, le Qigong, on en parlait tout à l'heure, c'est une sorte de gymnastique chinoise. Ça agit comment sur notre corps et en quoi ça consiste ?
Alors, le Qigong, il y a trois éléments qui caractérisent le Qigong. C'est le travail sur le corps pour que l'énergie circule partout, dans toutes les parties du corps, dans tous les méridiens. Donc, ce sont des mouvements lents. Sont calqués
parfois
sur les trajets des méridiens.
On voit des pratiquants dans les parcs.
On voit dans les parcs, voilà, tous ces mouvements lents.
Très lents.
Il y a les exercices respiratoires et le poumon, c'est le maître de l'énergie. C'est lui qui guide tout le mouvement de l'énergie, qui fait circuler. Et il y a les exercices de concentration, les intentions qu'on donne, qui relient le corps et l'esprit et qui vont guider l'énergie dans les parties où on souhaite qu'elle aille.
Alors la médecine traditionnelle chinoise, on l'a vu, elle sert énormément en préventif, notamment contre les maladies. Mais on peut aussi soigner véritablement des pathologies avec cette médecine. Des sciatiques, par exemple, on nous a dit ça en préparant l'émission. Et moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je m'entraîne une depuis 2 mois. Qu'est-ce que je peux faire du côté de la médecine traditionnelle chinoise ?
Alors, l'acupuncture, elle va faire circuler l'énergie, comme on disait. Donc, elle va diminuer très généralement les douleurs. Et la sciatique, le principal problème, c'est la douleur. Après, il faut voir la cause quand même. S'il y a une hernie discale, par exemple, ben là, il y aura besoin de repos, peut-être même d'une intervention. Ça, c'est le bon côté de la médecine occidentale aussi, hein, faut pas le négliger. Mais l'acupuncture va vraiment avoir une fonction antidouleur très efficace là-dessus.
C'est déjà pas mal, parce que ça fait souffrir, effectivement.
Et si jamais on a une insomnie ou que l'on dort mal...
On revient toujours au sommeil avec vous, Julien.
Oui, j'ai la chance de ne pas avoir de sciatique. Et c'est vrai que le sommeil, c'est quelque chose qui enquiquine pas mal de gens. Hein. Comment on peut, trouver un exercice tiré de la médecine chinoise que l'on peut faire pour trouver un sommeil rapidement ? Je crois que vous avez une petite astuce.
Oui, ce que je pourrais conseiller vraiment, c'est avant de s'endormir, parce que la nuit, c'est le côté justement plus signe, on va rentrer à l'intérieur de nous. Donc il faut retrouver son corps, se réconcilier avec son corps et détendre toutes les petites tensions qui sont accumulées dans la journée. Donc on va s'allonger et poser les deux mains, l'une sur le ventre, l'autre sur la poitrine. On ferme les yeux et on respire tranquillement peu à peu, au bout de quelques minutes, on va sentir la chaleur des mains qui va amener la détente, qui va relâcher les organes. Et on va se sentir bien dans son corps. On va se réconcilier avec son corps et on va lui permettre comme ça de bien récupérer. Et si on a, par exemple, comme en ce moment avec le Covid, beaucoup de soucis avec la respiration, même du stress quand on est positif, eh bien, on peut mettre à ce moment-là les deux mains au-dessus de la poitrine, de chaque côté. On respire tranquillement. On va se détendre, on va nourrir l'énergie des poumons. Et donc, on va peut-être éviter le gros stress des maladies, l'inflammation qui flambe. On va pouvoir aider, en tout cas, son terrain à mieux supporter l'affection.
Dominique Cazaïs, nous en avons fini avec cet entretien, mais juste avant de nous quitter, vous vouliez rajouter quelque chose.
Oui, ben, je voulais proposer à tous ceux que ça intéresse, dimanche 16 janvier, on propose une journée qu'on appelle un dimanche zen, pour mieux connaître la médecine chinoise. On fait des petits ateliers de pratique, des petites conférences.
C'est où ?
La diététique. Alors, c'est au Temps du Corps à Paris. Et c'est aussi par Internet, par Zoom. Donc on peut s'inscrire sur le site tempsducorps.org.
Eh bien, merci
pour
beaucoup.
Tout connaître.
Europe 1, 11h30. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine consacré à notre vie quotidienne. Ici, tous les jours, on décrypte pour vous les bons plans du moment, les tendances dans tous les secteurs qui nous rendent la vie plus agréable, plus facile. Alors justement, ce qui est particulièrement doux en général pour terminer la semaine, ce sont les conseils du chef pâtissier Jeffrey Cagne. Bonjour Jeffrey.
Bonjour Mélanie.
Vous allez mettre un petit fruit exotique en avant ce midi. Lequel et qu'est-ce qu'on va faire avec ?
Alors, on va parler du litchi, qu'on ne parle pas assez souvent, mais qui est sur toutes les tables de nos fêtes. Et on va faire une confiture de litchi.
Oh, pas mal.
Ça, c'est génial. En tout cas, un truc que je vais acheter et que je ne vais pas faire. Ensuite, ce sera à vous de jouer, Sophie Braffman. Vous êtes notre spécialiste mode.
Oui.
Quelle est la tendance que vous allez nous décrypter aujourd'hui ?
Alors, le mois de janvier est un mois très chargé, puisque nous avons la semaine de l'homme, n'est-ce pas, Jeffrey ? Nous allons donc parler des jockstraps et des slips que vous portez tant. Il y a la haute couture, mais aujourd'hui, c'est de la couture quasiment aux mesures, mais accessible. Parce que la haute couture, c'est pas toujours évident pour tout le monde.
Non,
alors, je vais vous
cher.
Proposer des vêtements qui sont faits aux mesures, mais à des petits prix.
Génial. Et enfin, on terminera la partie tendance du jour avec vous, Sophie Mouton-Brissé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes décoratrice et coach bien-être et vous allez mettre un coup de projecteur sur la couleur de l'année. On l'a dit et ça s'appelle le Veri-Péri. Alors, rapidement, hein, sans tout nous dévoiler, elle ressemble à quoi cette couleur pour nous la décrire ?
En réalité, Veri-Péri, ça vient de Periwinkle, qui veut dire pervenche en anglais, donc vous avez tout de suite l'idée de la couleur.
C'est bleu,
un violet assez bleuté.
Ah, un violet bleuté. Merci beaucoup Sophie, ce sera à vous dans quelques minutes, mais à présent, on va passer en cuisine dans Bien fait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Jeffrey Cagne, c'est à vous. On va mettre un tout petit fruit à l'honneur avec vous aujourd'hui, le litchi, un fruit très apprécié pendant les fêtes de fin d'année notamment. Et on en trouve encore pas mal dans le commerce, sur les marchés. Donc c'est un fruit que vous appréciez, vous les pâtissiers. Hein ?
Alors oui, et il faut savoir que la saisonnalité se trouve de novembre à février. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle du litchi et on le retrouve de plus en plus sur les tables des fêtes. Je le disais.
Oui, il y en avait chez moi, c'est vrai, pendant les fêtes. Enfin, chez mes parents en
tout
cas.
Et c'est vrai que c'est pas. Avant c'était plus la mandarine, c'était plus les agrumes et aujourd'hui. Aujourd'hui, le litchi est vraiment sur toutes les tables. Moi, mon fils me demande à chaque fois du litchi à Noël.
Il a quel âge ?
Pénible, appelé. Il a 8 ans.
Il a 8 ans et il mange du litchi.
Oui, en fait, c'est quand même très sucré.
Bah oui, donc je sais pas, parce que je n'aurais pas proposé ça à un enfant, mais vous avez certainement raison.
Ben en fait, c'est facile à manger aussi.
Ouais, mais moi, c'est déceptif. Hein, on met 3 heures à appeler ce truc, et il y a un énorme noyau à l'intérieur, très peu de chair.
Oui, mais c'est quand même rigolo, c'est quand même un fruit qui est différent des autres. C'est un fruit exotique qui est originaire de Chine.
On reste dans la médecine chinoise, hein, finalement, avec
Alors maintenant, on en trouve un peu partout. Je veux dire, ça pousse un peu partout, mais à l'origine, c'est la Chine. Et il faut savoir que ces arbres sont immenses, ils font plus de 20 mètres.
Waouh!
Donc c'est un peu compliqué pour nous d'aller les chercher, ces litchis, mais en tout cas voilà.
Il y en a à La Réunion beaucoup je crois.
Ouais. C'est ça.
Et
c'est
comment vous utilisez le litchi dans vos pâtisseries par
Alors le litchi, on peut l'utiliser frais, on peut l'utiliser aussi non en conserve toute l'année, ça veut dire le litchi se conserve en sirop. D'ailleurs c'est comme ça qu'il est souvent plus sucré, plus subtil, facile à manger parce qu'il n'y a pas de noyau. Et nous on l'utilise aussi en purée de litchi, donc un jus de litchi. Alors on peut le faire soi-même à la maison si on a des, vous savez,
les
extracteurs de jus, où en fait on met les litchis dedans, on enlève bien sûr le noyau, la peau, et on récupère le jus litchi.
Faut me les livrer comme ça, je crois. C'est comme ça. Que... Je trouve ça pénible. Vous trouvez pas, Sophie Braffman?
Bah, c'est un peu pénible, et comme vous dites, c'est un petit peu déceptif des fois parce qu'on passe plus de temps à le peler qu'à le manger. Ça, c'est un peu dommage.
C'est valable pour beaucoup de choses.
Hein. Oui, mais... malheureusement.
Vous pensez à quoi en particulier, Julien?
À plein de choses.
On va rester sur le litchi.
Oui. Alors, avec quoi il peut s'associer, le litchi?
Alors, avec quoi il peut s'associer? Je vais parler d'un pâtissier qui est quand même un des monuments de la pâtisserie. C'est quand même Pierre Armé. Il faut savoir que Pierre Armé a lancé l'Ispahan, qui est quand même aujourd'hui devenu un des derniers classiques de la pâtisserie, le plus connu, qu'on trouve toute l'année. Donc, litchi, framboise, rose. Aujourd'hui, ça parle vraiment à tout le monde.
C'est tellement bon.
C'est très très bon. Et il faut savoir que voilà, ce macaron rose avec ses litchis, ses framboises et cette rose...
Je l'ai goûté, il est très bon, j'avoue. Bah, Sophie Mouton-Brice, vous connaissez, vous aimez le litchi?
J'adore les litchis. Par contre, la petite question que je me pose, Geoffrey, c'est comment on reconnaît un bon litchi frais, goûteux, bien...
Il est en boîte avec du sirop.
Alors le litchi, c'est pas simple de le choisir, c'est ça le problème. C'est que le litchi, il y a quand même
en plus,
une coque dessus.
Ça pique, hein, si on touche.
Oh, ouais. Ça pique, alors là...
Ça picote, non?
Ouais, on parle pas... Non, je pense que ça, c'est les figues de Barbarie, c'est pas pareil.
Je parle des litchis, je sais très bien ce que c'est.
Non, mais le litchi, bah après, il faut savoir que plus il est mûr, mieux c'est. Mais c'est vrai que c'est voilà, il faut voir la coque un peu. Ça dépend.
En gros,
ça,
vous n'avez pas de réponse. Hein,
non, j'ai pas de réponse.
Je suis des fois, on est déçus, on les décortique et
bien
c'est
sûr.
Tout sec.
Faites confiance aux pâtissiers, venez manger les gâteaux des pâtissiers. Il y aura toujours ce goût de litchi. Alors moi,
avec
d'ailleurs,
quoi
je vous ai ramené.
Vous associez justement les litchis.
Alors déjà, moi, je vous ai ramené parce qu'on parle de litchi, mais je vous ai quand même fait des petites boules de chocolat. Donc chocolat et confit de litchi.
Ça s'associe bien.
Donnez-en une à Sophie Mouton-Brice avant de nous le faire passer.
Alors j'ai fait exprès et vous allez tous savoir. Avoir un petit peu de cuivre pétillant sur les lèvres.
Ah oui,
vous allez vous aujourd'hui, c'est moi qui m'en occupe.
Ah, ça a gobé dans le vin, à mettre directement dans la bouche.
Ah oui.
Bon, on va faire passer.
Ouais. Et je veux que vous vouliez garder la boîte, mais non, envoyez.
Non, allez-y.
C'est bon.
Alors, c'était quoi la question déjà?
C'est beau.
À quoi on
l'associe? C'est vous qui avez
donc,
fait ça,
oui, framboise. Oui, c'est moi, ce matin. Alors, on l'associe à la framboise.
On me dit ça, j'ai fait ça ce matin, tranquillou, j'avais rien à faire ce matin.
Donc, c'est roulé sous les aisselles, par contre, les filles. Hein.
C'est bien roulé.
Mais du coup, on peut l'associer donc aux fruits exotiques, aux autres fruits exotiques, vu que c'est quand même un fruit exotique, le litchi. C'est assez sucré, assez subtil, donc c'est difficile parce qu'on peut perdre vite ce goût de litchi. On peut l'associer dans une mousse de fruits aériennes.
Avez fait quoi? Enfin, vous n'allez pas nous dévoiler votre recette.
Alors là, c'est ce que je vais vous donner comme recette. Ah. C'est le confit, justement, ce confit qui peut devenir une confiture de litchi avec une ganache chocolat vanille et tout ça en robe de chocolat noir.
Il n'y a pas que du litchi, il y a du chocolat là-dedans, je le sens.
Ce qui est très important avec le litchi, c'est qu'il faut contrebalancer avec un zeste de citron pour justement désucrer le litchi et avoir vraiment les arômes du litchi, et notamment le chocolat noir fait son effet.
Laissez-moi vous dire que c'est très bien équilibré. Une petite recette peut-être?
C'est une connaisseuse en pâtisserie qui parle. Hein.
Alors, une petite recette, vous achetez soit du jus de litchi déjà sucré.
Oui, on va faire ça, je pense.
Voilà, on va faire ça. Alors, qui est généralement sucré entre 10 et 15%, il faut le savoir. Donc, pas besoin de rajouter énormément de sucre. Donc, vous prenez du jus de litchi, donc par exemple, 1 litre de jus de litchi. Vous y ajoutez quand même 10% supplémentaire de sucre, donc 100
grammes. Histoire de ne pas être en hypoglycémie, on ne sait jamais.
100 grammes, vous y mettez 3 zestes de citron vert et un jus d'un citron. Vous mettez tout ça à bouillir. Une toute petite partie du sucre que vous gardez avec 20 grammes de pectine NH, une pectine nappage.
Bon, ça se trouve dans le commerce.
Ça se trouve de plus en plus.
Elle n'a jamais eu ça entre les mains.
Une fois à ébullition, vous remélangez justement ce mélange sucre et pectine. Vous remuez 3-4 minutes. Vous débarrassez, vous mettez ça dans un pot, vous laissez au frigo.
D'accord.
Et ça vous fait un petit confit, justement une confiture de litchi.
Pour le petit déjeuner par exemple, hein.
Pour le petit déjeuner, pour un yaourt nature, pour même manger comme ça devant la télé, ça peut être très bien.
Sophie, ça vous inspire, Braffman?
Bah,
je dis Sophie Braffman, hein, parce qu'il y a deux Sophie.
C'est vrai, on est deux.
On va dire
deux.
Sophie, deux. Voilà.
Oui, le petit litchi devant la télé, puis j'aime bien, parce que quand c'est avec le chocolat, comme ça, on n'a pas ce problème du pelage du litchi. Hein, donc forcément, c'est plus pratique.
C'est gentil de les avoir pelés pour nous. Hein, du coup.
Alors, je vous explique pourquoi c'est des chocolats là, parce qu'on est en train de travailler sur la Saint-Valentin et qu'il y aura
En avant-première.
Mon chocolatier va faire un chocolat à base de litchi.
Pour la Saint-Valentin.
Et ben, ça sera encore la saison du litchi, puisque vous nous avez dit jusqu'à février.
Jusqu'à février.
Ah, bah voilà.
Je pense à tous les couples et toutes les femmes, et notamment la mienne.
Déjà en avance.
Oh, elle doit être gâtée pleine de litchi, votre femme. Elle a beaucoup de chance. Merci beaucoup, Geoffrey, pour ces précisions et pour cette recette que je ne ferai évidemment pas chez moi, comme d'habitude. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez les détails, la liste des ingrédients, tout ça sur nos réseaux sociaux dans très peu de temps. Attention, personne ne bouge, car d'autres tendances arrivent. Il y aura d'abord les conseils mode de Sophie Braffman. Elle va nous expliquer pourquoi et comment le sur-mesure est en train de devenir vraiment très branché. Et puis, il y aura aussi la chronique déco d'une autre Sophie, Sophie Mouton-Brice. Elle va nous expliquer comment décliner chez nous le Very Perry. C'est la couleur de l'année 2022. Alors, pour en savoir plus, restez sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à midi et demi. Et notre séquence tendance se poursuit avec nos trois chroniqueurs toujours à nos côtés dans ce studio. On a fini de décortiquer les litchis, un fruit tendance du mois de janvier avec Geoffrey Cagne qui nous a régalé comme à son habitude. Et à présent, c'est à vous Sophie Braffman de nous présenter votre tendance mode du jour. Et vous avez décidé de nous parler du sur-mesure. On vous écoute.
Alors, du sur-mesure justement, parce que l'année dernière, je vous avais parlé du fait de personnaliser ses vêtements. On est dans une époque où on s'affirme beaucoup, on s'aime beaucoup, hein, me, myself and I, on est vraiment là-dedans. Mais l'avantage de la couture, c'est qu'en fait, on peut avoir vraiment un vêtement parfaitement fité et qui nous va. Donc, ça devient vraiment intéressant d'avoir aujourd'hui des vêtements haute mesure, notamment les siennes.
Bon, de la haute couture, donc en quelque sorte, mais plus accessible, c'est
alors,
ça ?
C'est exactement ça le défi. Je vous ai parlé tout à l'heure de la semaine de la haute couture qui aura bientôt lieu en janvier à Paris. On va commencer par une marque pour hommes. Je sais que Geoffrey, souvent, on a marre de voir défiler ici des soutiens-gorge, des brassières, voilà, toutes sortes de choses qu'il ne pourra pas porter. Et bien là, Geoffrey, je m'adresse directement à vous, puisque un homme a eu l'intelligence de fonder cette marque intitulée Le Chemiseur, une marque fondée par un ancien ingénieur, Jan Schutt, qui est très pragmatique, soucieux de limiter l'impact écologique, puisqu'en fabriquant à la mesure, ben forcément, on a zéro stock, donc zéro déchet.
Avec Le Chemiseur, on fait donc tout pour démocratiser le sur-mesure. La première commande est facilitée par notre algorithme basé sur le poids de taillage du client. Les prix sont accessibles à 99 € pour des tissus italiens et français. Et surtout, j'ai mis au point une clé de coupe vraiment brevetée unique au monde, qui est notée dans chaque produit, qui permet de recommander de manière simple et ludique.
Alors, des chemises et des pantalons aux mesures, avec un prix tout à fait accessible, grâce à trois petites questions auxquelles vous allez répondre en ligne. Vos mesures corrélées avec votre poids, votre taille et votre âge. On est donc bien loin des prix des marques de luxe, avec un service de qualité, aussi bien dans le choix des tissus que de la coupe. Et ce qui est assez essentiel, vous n'allez pas me contredire, Geoffrey, oui, pour une chemise.
Et ça marche aussi pour des vêtements plus féminins et plus près du corps, Sophie.
Et oui, oui, ramène ça à nous, parce que Geoffrey, c'est bien bien,
ça
c'est
va,
bien
ça beau, va, mais nous aussi. Vous pouvez rester un petit peu sur les hommes.
Mais voilà, mais les filles, alors justement, je vais vous parler, je vais vraiment m'adresser à vous. On va parler soutien-gorge avec une marque qui porte bien son nom.
Aussi, hein. Bien sûr,
Lolo Paris. Voilà, Geoffrey, ça c'est pour vous aussi.
Ça porte bien son nom en plus.
Alors, bah, forcément, parce qu'on a un vrai problème, nous les femmes, on ne connaît pas forcément bien notre taille de soutien-gorge, ou du moins on ressort toujours la taille qu'on avait quand on avait 20 ans, mais malheureusement ce n'est pas toujours
ça
la même.
Évolue.
Ça évolue avec le
et
temps.
Et notamment le tour de dos.
Mais le tour
moi,
de dos.
Moi j'étais persuadée de faire un 85.
Et en fait, non.
95.
Ah, bah, voilà.
Ah, oui, je me suis épaissie du dos.
Ah, comme tout le monde. On s'épaissit du dos avec le temps, vous avez bien raison de le préciser, puisque 78% des femmes font face à des problèmes d'inconfort en lingerie, hein, parce que forcément, si vous avez un soutien-gorge qui vous serre trop le dos, bah, c'est très désagréable, et 42% ont du mal à trouver leur taille. Alors, Océane Brière est cofondatrice de la marque Lolo Paris, m'a expliqué pourquoi nous ne connaissons pas nécessairement notre taille.
Après des grossesses ou des allaitements, le corps évolue, la taille change et on a du mal un peu à savoir bah, quelle nouvelle taille porter. Et c'est un peu compliqué d'avoir vraiment un vrai accompagnement. Et c'est vrai que les femmes aujourd'hui n'ont pas du tout le réflexe de prendre leurs mesures. Alors qu'en fait, bah, c'est vraiment ça qui va indiquer la bonne taille et avoir un produit qui vraiment s'adapte au corps et non l'inverse.
Donc là, pareil, vous allez prendre vos petites mesures bien tranquillement chez vous. Je vous explique aussi, Julia, je sais que vous n'êtes pas très do it yourself, un peu
non,
comme
je
moi.
Je déteste ça.
Voilà, et bien là, c'est bien parce qu'il y a un tutoriel hein, qui vous explique comment prendre ces mesures. C'est quand même beaucoup plus simple.
Donc, quelqu'un peut nous les prendre, quelqu'un de proche.
Hein. Un ami, bien oui, sûr. Voilà. Un ami, un voisin, pourquoi pas. Et donc, c'est, franchement, c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, il y en a très peu, mais chaque modèle va être vraiment édité en fonction de votre morphologie puisque vous allez donner vos mesures. Et on est autour des 85 € pour un soutien-gorge. Donc, voilà.
Mal, hein, ouais,
voilà.
C'est clair. Alors, honnête, ce besoin de sur-mesure s'invite aussi du côté des accessoires, Sophie.
Alors oui, et notamment avec un produit assez inédit, les lunettes. Alors, vous pouvez aujourd'hui, imaginons que vous ayez envie des lunettes, de lunettes triangles avec des verres vers Very Perry, par exemple. Pourquoi pas? C'est possible avec des clés USB même intégrées à l'intérieur des branches. Et oui, on n'arrête pas le progrès. Nicolas Riffier, responsable de l'atelier LISAC, nous en parle.
LISAC, il réalise des montures sur mesure depuis 100 ans. Tout d'abord, c'était dans un premier temps, c'était des montures médicales plus spécialisées pour la morphologie ou suite à des pathologies graves. Désormais, on fait de plus en plus de montures sur la partie mode qui est vraiment spécifique à ce que le client veut. On se base à partir d'une forme déjà qu'il a déjà repérée en magasin. Et là, on adapte avec une couleur vraiment bien spécifique comme il le souhaite, où on peut modifier un petit peu les côtes de la monture pour réaliser vraiment une monture qui lui convienne parfaitement.
Mmh. Alors, Mélanie, vous inquiétez justement de ces branches avec des clés USB à l'intérieur.
Eh ben, j'ai envie d'avoir des lunettes, du coup.
Voilà, c'est une commande qui a été faite par un DJ parisien qui souhaitait avoir de la musique en permanence avec lui, forcément. Donc, il était un peu dans sa bulle. Et Nicolas m'a même raconté avoir créé des montures en forme de cœur. On parlait de la Saint-Valentin tout à l'heure.
Ça,
pourquoi
c'est pour
pas
Geoffrey.
Une jolie monture en forme de cœur avec une petite boule agrémentée de litchi. Et c'est formidable. Ça fait une très jolie idée cadeau.
Merci beaucoup, Sophie Braffman, pour cet éclairage sur la mode du sur-mesure, du côté de l'habillement. On va peut-être se laisser tenter, il y a de quoi faire, en tout cas avec tout ce que vous nous avez conseillé, c'est bien noté. Maintenant, on va passer à la chronique déco de Sophie Mouton-Brice. En déco aussi, on doit pouvoir faire du sur-mesure et peut-être même avec la couleur de l'année, on va voir ça. C'est le Very Perry, c'est à vous Sophie. Comment elle est décidée d'ailleurs, cette couleur de l'année?
C'est un processus très intéressant. Alors, je parle de la couleur de l'année by Pantone, hein, uniquement, qui est un organisme marketing américain qui recherche la couleur de l'année et puis après qui la diffuse dans tous les univers, hein, que ce soit la mode, l'habillement, les arts de la table, etc. Mais ils ont une manière intéressante de travailler, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'information en amont. Ils ont plein d'informateurs dans le monde entier qui leur donnent des informations, transmettent des informations sur les habitudes, par exemple, d'achat dans tel ou tel domaine. Ça peut être l'habillement, Sophie, ça peut être les arts de la table, ça peut être les voitures, la déco bien évidemment. Et puis ils ont aussi d'autres informateurs qui se situent dans les arts graphiques. On peut aussi noter par exemple, tiens, telle couleur apparaît beaucoup dans certains feuilletons ou certaines publicités, etc. Et
c'est tout ça, ça remonte. Des mini thermomètres un peu partout dans tous les secteurs.
Voilà, exactement. Et toutes ces informations vont remonter sur
Pantone.
Et ils vont définir une ou parfois deux couleurs de l'année. Il y a des années où il y a eu deux couleurs. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est un vrai mouvement qui nous parle de l'inconscient collectif. Mmh. Et ça, c'est toujours intéressant. C'est vrai que moi, mon dada, c'est la psychodéco, l'analyse du choix des couleurs, ce qu'il transmet. Et là, on est vraiment dans une analyse très intéressante sur ce genre de couleurs. L'année dernière, c'était par exemple gris et jaune.
Voilà, c'est ça, Pantone, c'était gris et jaune. Ça, c'était pour 2021. Mais pour 2022, c'est quoi la couleur?
Alors, pour 2022, c'est le Very Perry. C'est cette couleur pervenche qui est une sorte de violet assez bleuté.
C'est ce qu'on voit là, parce que vous nous avez amené
sur ces impressions-là, elle apparaît un peu mal, mais en réalité, elle est comme celle-ci.
Ah oui, c'est plus mauve chez vous.
C'est quoi? C'est du bleu mauve, du bleu pervenche?
C'est un bleu mauve, voilà, qui est très... Mais c'est vraiment pervenche.
Et hein. Alors ça, en psycho-déco, ça veut dire quoi?
Alors, si on va vers la symbolique des couleurs, c'est intéressant parce que ça nous transmet un peu la joie retrouvée. C'est aussi, il y a aussi un petit côté un peu mélancolique, mais la pervenche, enfin ça, je vous parle déjà de la symbolique de la pervenche en tant que fleur, parce que je me suis penchée dessus. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi ils ont appelé ça Very Perry? Donc il y a un petit peu l'espoir, la joie. En psychodéco, on tombe dans la grande famille des mauves et des violets qui nous apaise. Je crois que la dernière fois, on avait eu un
vous
petit échange.
Vous étiez invitée dans cette émission, voilà, maintenant vous êtes chroniqueuse. Mais...
C'est un plaisir. Et je vous avais dit que le violet avait tendance à abaisser un peu tout ce qui était notre énergie intérieure. Alors on a l'abaissement du rythme cardiaque, l'abaissement de la pression artérielle,
donc
de certaines
repose.
Zones cérébrales. Mm-hmm. C'est une couleur qui prépare au sommeil et au rêve.
Alors que le gris et le jaune de l'année dernière, ça voulait dire quoi?
Alors c'était intéressant parce qu'il y avait une vraie dualité là. Il y avait le gris qui était plutôt passif et immobile et un petit peu terne, hein, tristounet. Et il y avait le jaune qui était plutôt une valeur d'éveil mental, parce que le jaune est vraiment une couleur mentale. Donc on avait une dualité. Laquelle des deux va gagner?
Ah, mais en tout cas, cette année, on va vers l'apaisement, si j'ai bien compris.
Voilà, exactement.
C'est joli comme couleur, honnêtement, moi, je la trouve très belle, très douce, à un côté très printanier même, mais par contre, je ne vois pas du tout comment l'utiliser chez moi.
C'est une couleur effectivement particulière.
Ni à porter, moi je ne me verrais pas avec cette couleur.
C'est-à-dire,
je vois que ça va. C'est pas ça du tout la couleur de Sophie Braffman, mais.
Mais je suis sur un mauve, moi. Mauve, en tout cas, je suis dans la tendance des violets.
C'est
je cherche l'apaisement.
Mais il faut l'associer en fait. Hein.
Avec alors, quoi alors justement vous l'associez?
Alors justement, donc c'est vrai que c'est une couleur assez particulière. Elle a un éclat presque métallique. Et alors pour faire plaisir à Jeffrey, elle est à la fois, elle peut être très masculine cette couleur. En fait.
Ce que j'allais demander. Parce voilà. Que j'ai du mal à porter
on va
du
la
violet.
Retrouver, hein, Sophie. Vous nous confirmerez, mais on va la retrouver aussi bien dans l'habillement féminin oui. que dans l'habillement masculin. Ouais. Tout dépend avec quoi on la porte en fait. Et en déco, c'est exactement pareil. Avec quoi je vais l'associer?
Bah alors justement sur les murs, par exemple, j'ai quatre murs. Ça arrive à plein de gens. J'ai quatre murs. Je fais quoi de mon Very Perry?
Déjà, je ne la mets pas sur les quatre murs. Parce que non, là, sinon, ou alors, je prends la paire de lunettes noires qui va avec. Parce que franchement, elle est quand même assez difficile en lover comme ça. Moi, je ne la mettrais que sur un mur, voire sur une forme. Hein. Moi, j'aime bien travailler les formes géométriques sur les murs.
Vous nous parliez d'un rond la dernière fois.
Oui, cercle, je vous parlais ouais. du cercle de sérénité que j'avais réalisé dans le salon et qui est un cercle rose quartz. Et là, le Very Perry, on peut le mettre aussi en triangle, en carré ou en cercle. Ça dépend de l'émotion qu'on a envie de créer.
Mm-hmm. Si je mets un triangle, ça veut dire quoi? Si je mets un triangle chez moi,
ça, ça peut vouloir dire l'élévation aussi. Hein. J'ai une base solide, mais c'est quelqu'un qui pense un peu cérébral. Ça peut être un peu ça chez soi, le triangle.
Et si je mets en rond, c'est quoi? C'est un truc plus accueillant, peut-être?
C'est la douceur, c'est l'harmonie, c'est l'infini, c'est l'apaisement. Mm.
Il arrive qu'elle soit moche, la couleur de l'année, que vous, vraiment, vous la trouviez immétable nulle part, c'est possible?
Personnellement, non, parce que moi, j'ai vraiment des difficultés à trouver une couleur moche. Mais après, c'est une question de goût.
Mais c'est surtout comment l'associer. Par exemple, vous l'associez avec quelle couleur?
Alors, ce Very Perry qui est un pervenche, moi, je le vois très, très bien avec tout ce qui est de la nature, hein, d'ordre naturel. C'est-à-dire, on peut même l'entourer avec beaucoup de plantes vertes ou du vert chez soi, du vert émeraude, des verts un petit peu à dominante jaune qui vont le comme des citrines ou bien certains kakis même vont très, très bien aller avec le Very Perry, justement. Des kakis un peu bleutés vont réveiller le côté bleuté des kakis. Ça peut être très joli.
Et en termes de matière, du bois avec
des matières naturelles, justement, ouais. pour casser son côté trop froid et trop métallique. Des bois naturels.
Il faut
un
le
peu
réchauffer
rugueux.
Un peu, le Very Perry.
Ouais,
hein,
des laines, des lins, etc.
Et en mode, on va avoir justement ces matières très organiques qui vont venir pour cet été. Donc ça va bien se marier avec le Very Perry de sa maison.
C'est quand même frustrant les couleurs parce que, par exemple, quand on monte une pâtisserie ou qu'on monte un lieu, une boutique, ouais. on s'adapte à une couleur tendance, mais en fait, la couleur tendance qu'on aura choisie, ce ne sera pas la couleur de. Et c'est pour ça que beaucoup choisissent le blanc ou la neutralité, alors que des fois on a envie vraiment de mettre de la couleur, mais on se dira l'année prochaine c'est plus du tout tendance.
Vous repeindrez un seul mur, Jeffrey, c'est pas bien quand même. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sophie pour cette mise en avant de la couleur que l'on devrait voir fleurir partout dans nos intérieurs si on suit la mode en déco. Et grâce à vous, on sait maintenant comment bien l'utiliser. Merci à tous les trois, on vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin, mais on sera de retour bien sûr lundi à 11h. Et Mélanie, lundi, quelle sera le programme?
Alors lundi, Julia, dans Bienfait pour vous, nous recevrons le psychiatre et écrivain Christophe André qui nous expliquera pourquoi consoler et se faire consoler nous fait autant de bien.
Et bien d'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques si vous en avez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21.